Chronique de confinement. Le masque et la prune. Une capsule sonore qui donne la parole aux bénévoles de prune depuis chez eux. Récit, billet d'humeur, création. Retrouve le quotidien de celles et ceux pour qui le confinement se raconte.
Bonjour à toutes et à tous, il est 18h et vous êtes sur Prune dans la quotidienne d'actualité locale, le masque et la prune. Ce vendredi, on parle culture et réouverture à petits pas des lieux culturels nantais. Installez-vous confortablement et restez avec nous. Dans la première partie de cette émission, nous vous emmenons à l'exposition « Humanité végétale au lieu unique », un récit en images d'un périple de 10 ans à travers le monde par le photographe suisse Mario Del Curto. En seconde partie, nous poussons cette fois les portes du TNT, où la directrice nous racontera comment le théâtre rouvre ses portes au public en lui proposant d'assister à un extrait, une répétition, un filage. Bref, une étape de travail d'une compagnie locale. C'est chaque vendredi à 18h et cela s'appelle les vendredis inattendus. Alors, bonne visite et belle écoute sur Prune.
Le masque et la prune.
Fermé en mars dernier en raison de la pandémie de Covid-19, le lieu unique retrouve progressivement sa vitalité, avec l'exposition « Humanité végétale » de Mario Del Curto. Depuis quelques années, Mario Del Curto parcourt le globe et porte son regard sur des liens complexes qu'entretiennent l'homme avec le végétal. Il présente pour la première fois l'intégralité de son travail sur ce thème au lieu unique, avec plus de 200 photographies exposées. Je suis comme un maraudeur, un gentil voleur romantique. Dans le travail, je ne pense plus et je ne sens ni le froid ni la pluie. C'est un peu comme un état second, une sorte d'osmose avec ce qui se passe, comme si les choses faisaient des signes pour m'inviter à les photographier. Humanité végétale, c'est avant tout un livre, sorti en 2019 aux éditions Actes Sud. Céline Musel, historienne de l'art, en a fait la préface. Partant d'une vision inclusive du mot jardin, Mario Del Curto identifie différents chapitres pour orienter ses explorations. Jardin et science, jardin urbain, jardin des morts, jardin et pouvoir, jardin sacré, jardin modeste. Semer, étudier, patienter, observer, planter, comprendre, composer avec la vie, et lui laisser la préséance du résultat. Découvrant ces images, le visiteur peut construire son propre imaginaire, répondre à ses propres questionnements, avec, en latence, des fils rouges proposés. On pense à la disparition de la biodiversité et au désastre écologique actuel, à la perte de sens dans certains de nos rapports à la nature, mais aussi à la force de l'art, de la science et du savoir agricole pour inventer de nouveaux possibles. Concrètement, la photographie vise à transmettre un autre regard sur notre civilisation, à travers sa relation au végétal, et pose cette question centrale. Que prend-on à la terre? Et que lui rend-on? C'est au tour de Patrick Giger, directeur du lieu unique, de nous présenter ses impressions. Bonjour Patrick Giger, vous êtes le directeur du lieu unique à Nantes. Vous accueillez du 9 juin au 30 août l'exposition « Humanité végétale », réalisée par Mario Del Curto. Pendant plus de 10 ans, l'homme parcourt le monde, pour nous offrir un récit qui nous invite à réfléchir à ce qui se joue dans nos rapports avec la nature et à réagir au développement d'une humanité hors sol. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'une humanité hors sol ?
Alors, l'humanité hors sol, d'après Mario Del Curto, c'est comme ça que lui l'entrevoit, c'est ce rapport qu'ont les êtres humains avec la Terre, et de se dire, d'une certaine manière, qu'on ne fait pas partie de la biomasse et de la Terre, en fait, qu'on est au-dessus ou en décalage parfois, en tout cas en séparation du monde qui nous entoure. Alors qu'en fait, on le sait, que nous sommes partie intégrante de ce monde, et que la biodiversité, si elle a tendance à disparaître, nous en sommes responsables, et il y a des effets, comme on a pu le voir, qui sont rapides et qui sont importants. Donc, Humanité végétale, c'est une forme de tentative de montrer comment cette distanciation s'est opérée, comment est-ce que les êtres humains ont tenté de contrôler, soit pour des raisons de propriété privée, soit pour des raisons pour avoir plus de nourriture, ou pour des raisons d'agrément, ou de divertissement, ou de folie, de s'approprier le monde naturel, de le contenir, le transformer, et en faire un monde qui leur ressemble plus, quitte à le dégrader.
Les photographies nous plongent dans des jardins, autant atypiques que singuliers, sauvages ou façonnés par l'homme. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ?
Alors, il y a des jardins dans cette exposition, mais il y a également des banques de graines, des réserves, puisque dans sa volonté de contrôle, l'être humain catalogue, étudie, transforme génétiquement et croise les espèces végétales, très souvent pour le meilleur, hein, pour les rendre plus fortes, pour les rendre plus diverses, parfois pour les pires peut-être, pour les rendre plus faibles. On connaît certains exemples. Et dans l'exposition, eh bien, il y a à la fois la réserve de grains de Svalbard en Norvège, l'Institut Vavilov à Saint-Pétersbourg, mais aussi des jardins de ville. Comment est-ce que Dubaï ou Singapour inventent de toutes pièces des morceaux de nature en leur sein, puisqu'ils se sont débarrassés de cette nature et qu'ils essaient de la faire revenir d'une certaine manière, ou alors des créateurs singuliers, des êtres, des artistes un peu farfelus, qui transforment leur environnement de façon assez délirante.
Mario Del Curto est un artiste associé au Lieu Unique. Ce n'est pas sa première collaboration. Il a été co-commissaire de l'exposition sur Guy Brunet en 2016, mais aussi l'auteur de la photo utilisée pour l'affiche de la saison 2020-2021. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'artiste en quelques mots ?
Mario Del Curto, c'est un artiste et photographe suisse qui a une soixantaine d'années maintenant et qui a travaillé dès les années 70 sur les créateurs singuliers, les créateurs d'art brut. C'est devenu vraiment la référence au terme d'image autour des créateurs dit d'art brut, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et c'est pour ça, puisque l'on s'intéresse, nous, aux environnements singuliers, aux créateurs étranges, qu'on a commencé à montrer son travail de films, de photographies, et à écouter son témoignage. Et suite à une première exposition que j'avais fait avec lui il y a fort longtemps, une quinzaine d'années, eh bien, j'ai pensé à lui passer une sorte de commande autour des jardins utopiques, commande qu'il a heureusement détournée pour en faire quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus ambitieux, autour du rapport entre les êtres humains et le monde végétal.
Quand on parle à Mario Del Curto de son travail, bien que militant écologiste, il estime que c'est un constat plus qu'un appel à l'action. Est-ce que c'est cette démarche que vous voulez mettre en avant à travers cette exposition ?
Je crois pas que Mario ait été écologiste par conviction avant. C'est ça ce qu'il essaie de dire, je crois, quand il dit que c'est pas un appel à l'action. C'est que c'est en travaillant sur ce sujet qu'il s'est rendu compte de la gravité, on va dire, de la situation dans laquelle nous mettons notre environnement. Et il n'y a pas d'appel de sa part. Il dit pas il faut transformer la société. Il dit voilà le monde dans lequel on est. Il est parfois très beau, il est parfois absurde, il est parfois un peu terrifiant. Maintenant, à vous de faire ce que vous estimez être le mieux. C'est pas du tout. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de militantisme, on va dire, bas du front. Il y a plutôt une approche poétique et sensible.
Le secteur culturel a été très impacté par le Covid-19. J'imagine que vous avez dû annuler un certain nombre d'événements, réorganiser votre programmation. Comment le lieu unique a su réagir face à cette situation?
Alors, pour une exposition, c'est un peu plus simple pour que pour le spectacle ou la musique, etc. Donc là, il y a des mesures, mais pas très contraignantes, qui sont mises en place. Donc les gestes barrières, hein, le port du masque, etc. Et un sens d'exposition un peu plus réglementé, on va dire, que d'habitude. Normalement, ici, on peut balader un peu librement dans l'exposition. Là, il y a un peu un sens pour éviter qu'il y ait trop de gens qui se croisent. La difficulté, elle sera plutôt à la rentrée, en cas de deuxième vague, et surtout selon les conditions, on ne sait pas exactement dans quel contexte on va pouvoir présenter les choses. Est-ce que la danse, les gens pourront être au corps à corps? Est-ce que les musiciens pourront être proches les uns des autres? Combien de public on pourra avoir dans les salles? Mais on est en train d'élaborer un scénario assez souple qui, je l'espère, nous permettra de présenter un projet ambitieux à la rentrée et assez bienveillant de retrouvailles avec le public, quelles que soient les conditions sanitaires qui nous sont imposées.
En plus de l'exposition Humanité Végétale, est-ce que vous avez d'autres actualités à nous présenter?
Alors, le bar-restaurant est ouvert, donc on peut traîner ici en écoutant les bons sons. On espère que bientôt, il y aura de nouveau un peu de musique live ou des DJ. C'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, nous, on se prépare pour une saison septembre, à partir de septembre, qui sera très riche en événements.
En 2011, quand vous succédez à Jean Blaise à la direction du lieu unique, vous prenez la décision de placer votre projet sous le signe de l'utopie. Est-ce que 10 ans après, pour la saison prochaine, vous allez toujours dans la même direction ?
Plus que jamais, je crois, l'utopie est au centre du propos, puisque c'est un horizon vers lequel il faut aller. C'est pas un horizon à atteindre, mais je crois que nous manquons singulièrement d'images positives du futur et que il est temps de s'imaginer des futurs meilleurs, surtout au vu de ce qu'on vient de traverser. On parle beaucoup du monde d'après. Eh bien, c'est aux artistes de l'imaginer.
Merci Patrick Giger de nous avoir accordé du temps pour cette interview. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin?
Oui, j'espère que le public va venir parce que l'exposition est gratuite, donc il y a pas d'enjeu de billetterie, mais on a envie que les gens la voient et on a envie que ce lieu vive. Et le public nous a manqué. Merci à vous.
Mais qu'en pense le public? Je suis allé en début de semaine à la rencontre des premiers curieux. Comment définiriez-vous la notion d'humanité végétale?
Mon paradoxe.
Ça m'évoque plutôt un rapport qui, je pense, est de plus en plus distant entre les deux et qu'on aimerait, à juste titre, renouveler et recréer parce qu'on s'est un peu perdu sur la question dans notre façon de penser nos vies, dans notre façon de faire la ville, etc.
Eh bien, moi, je pense que c'est le lien entre justement l'humanité et le végétal, les rapports entre donc les humains et puis la nature, ce qu'il en est aujourd'hui. Je trouve que ça pose plus de questions.
Plein de choses. Je pense que c'est l'exposition est très actuelle finalement avec ce qui s'est passé aussi ces deux derniers mois de confinement. Je pense que les gens ont pas mal réfléchi sur notre présence sur la Terre, sur ce qu'on pouvait apporter en tout cas à la Terre. Et je trouve que c'est une super expo qui vient parfaitement au bon moment finalement.
Ouais. Quel endroit photographié par Mario Del Curto aimeriez-vous parcourir?
Ouais, Bomarzo, c'est hyper imaginaire, assez incroyable comme lieu, un peu un univers fantastique quoi finalement. Ouais, c'est la destination que j'aimerais bien y aller. Ouais.
Oui, j'aimerais beaucoup me rendre au Pérou notamment et rencontrer Julio Anco, qui est un paysan absolument incroyable qui dédie sa vie à justement préserver des centaines de variétés de pommes de terre et c'est lui que j'aimerais rencontrer.
Ouais, Singapour, ça me tente bien, ouais. Ça a l'air justement ça, un bon mélange entre la nature et la modernité, toute l'architecture, les nouvelles technologies, tout ça.
Ah ouais, les lueurs des pommes de terre dans les Andes, hein. Ouais, c'est beau ce qu'il fait.
On n'a pas terminé là du coup, mais je suis plus inspirée par les endroits où la végétation a vraiment retrouvé une place en ville. Donc voilà, je sais pas exactement où c'est, là j'ai pas encore le temps de voir, mais plutôt ces endroits-là, ouais.
J'ai bien aimé le cimetière de votre automobile en Suisse, la première photo.
Quel avenir pour l'humanité végétale? Mario Del Curto s'interroge.
Système de prédation sur les hommes, prédation sur les matières premières, prédation sur la nature, a constitué toute la base de notre société et a été aussi un des facteurs très très importants de la constitution des villes. D'ailleurs, dans les périodes de guerre, dans les périodes de pandémie, comme on peut le vivre aujourd'hui, on se rend compte que ces cités énormes, qui sont devenues parfois plus puissantes que les États, sont d'une grande vulnérabilité. On estime qu'en 2050, 80% de la population mondiale habitera dans des villes. Et quand on pose ces chiffres-là et qu'on imagine comment seront les villes, est-ce qu'on imagine comment sera la vie à l'intérieur de ces villes? Est-ce qu'on imagine le système de surveillance nécessaire? Est-ce qu'on imagine la consommation énergétique qui sera nécessaire? Est-ce qu'on imagine les infrastructures qui seront nécessaires? Alors que les sols sont menacés, alors que les équilibres des écosystèmes sont menacés, est-ce qu'on imagine aussi comment est-ce qu'on fera pour nourrir 80% de la population planétaire improductive?
Humanité végétale par Mario Del Curto, c'est du 9 juin au 30 août 2020 au lieu unique. L'exposition est ouverte du mardi au samedi de 14h à 19h et le dimanche de 15h à 19h. Du 8 août au 30 août pour le voyage à Nantes, c'est du lundi au dimanche entre 10h et 19h. D'autres œuvres de l'artiste sont aussi disponibles sur l'île de Versailles. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le site internet du lieu unique www.lieuunique.com. Bonne visite!
Et la prune.
Bonjour Louise Ratier, vous êtes la directrice et programmatrice du TNT à Nantes. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure ?
Oui, bonjour. Alors le TNT, c'est donc le terrain neutre théâtre. C'est un lieu dans le centre-ville de Nantes. On est situé au 11 allée de la Maison Rouge, donc juste à côté de l'arrêt de tram Hôtel Dieu. Et c'est une salle où on fait du spectacle vivant. Donc du théâtre, de la danse, de la musique, de l'humour, du jeune public. Plein de choses, de la magie, des contes, enfin voilà, ça, des performances. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent ici. C'est une salle qui a 21 ans maintenant, donc qui est là depuis un petit bout de temps. Et il y a vraiment une idée d'aider la création et de montrer la création locale, donc avec beaucoup d'artistes locaux de Nantes, de la région, qui viennent montrer leurs œuvres pour la première fois souvent.
En mars dernier, les salles de spectacle ont fermé leurs portes brutalement en raison de la pandémie due à la Covid-19. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation au TNT ?
Alors, on a fermé. On a fermé à cause de la pandémie, effectivement, comme toutes les salles. C'était moralement difficile. On avait toute une saison en cours, des choses à faire, on avait plein de projets et donc tout s'est arrêté d'un coup. Donc ça a été, oui, c'est ça, difficile. Après, on repart, voilà, lentement, mais on se remet dans le rail et c'est chouette. Je pense comme beaucoup de gens, la période de confinement a été un peu difficile et pas très... plaisante, mais en même temps ça a aussi été un moment de repos sur lequel on a pu réfléchir sur ce qu'on faisait, comment on le faisait. Donc on repart sur des bonnes bases et c'est chouette.
Savez-vous comment les artistes avec qui vous travaillez ont vécu le confinement ? Ce moment a-t-il été fertile pour leur création artistique ? Ou tout au contraire, c'était plus difficile pour eux ?
Et ça dépend vraiment des gens. Là-dessus, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse pour tout le monde. On a des artistes qui ont créé pendant cette période, notamment une des pièces dont on va parler peut-être tout à l'heure, qui s'appelle Miel, qui a été écrite pendant le confinement. Donc voilà, c'est assez chouette. J'ai entendu parler, alors je ne vais pas tout dévoiler, mais de projets de théâtre driving, voilà, pour respecter la distanciation physique. Donc il y a des super projets, il y a des choses qui se sont faites sur Internet, beaucoup, des rendez-vous réguliers qui ont pris place. Donc vraiment, il y a eu des choses super. Et puis, il y a aussi des artistes, pour qui ça a été très difficile et qui n'ont pas créé parce que, voilà. Après, il faut bien se dire aussi qu'il y a eu vraiment une pression à la créativité. Je pense qu'on l'a tous ressenti, qu'on soit artiste ou qu'on ne le soit pas. Et je pense qu'en tant qu'artiste, ça a été encore plus dur. Enfin, j'imagine, j'en suis pas, mais j'imagine que ça a été encore plus dur, cette pression. Et voilà, c'est pas grave en fait de pas avoir profité de cette période pour faire des choses. Il y avait aussi effectivement une pandémie mondiale et à un moment donné c'est angoissant et c'est très bien aussi de juste rien faire.
Entre le 15 mars et le 17 juillet, c'est 87 levées de rideaux et 46 artistes ou compagnies nantaises qui n'ont pas pu se produire sur scène. Oui, vous avez imaginé un concept inédit pour soutenir les artistes programmés, un concept qui s'appelle les Vendredis Inattendus. Pourquoi ce nom ? C'est parce que vous ne vous attendiez pas à pouvoir ouvrir les portes de votre théâtre de sitôt ?
Tout à fait. En fait, on a eu beaucoup d'annulations et on a commencé à se poser la question de savoir ce qu'on pouvait faire pour les artistes, comment les aider. Donc c'est une question qui, quand je dis « on », c'est les membres du TNT, donc les membres de l'association et puis les salariés. Et on a eu deux réponses. Alors on a fait ce qu'on a pu. On a mis en place une billetterie solidaire où en fait les gens peuvent donner l'équivalent d'une place de spectacle. Donc au TNT, en plein tarif, c'est 12 €, 9 € en tarif réduit et 7 € pour le jeune public. Et qui sera intégralement reversé aux artistes. Et puis, deuxième idée, on a voulu Ne pensant pas réouvrir, on a voulu mettre en place des résidences, enfin du temps de travail pour les artistes, pour qu'ils puissent venir répéter, venir jouer, venir créer en fait sur le plateau et puis retrouver un peu l'essence du travail de comédien et d'artiste. Et surprise, on peut rouvrir, je ne m'y attendais pas. Donc on a voulu ouvrir au public également. Et donc chaque vendredi, donc à la fin de chaque semaine d'accueil, on propose une restitution du travail qui a eu lieu avec les vendredis inattendus. Donc voilà, c'est pas forcément des représentations, on est vraiment sur des moments, ça peut être des extraits, ça peut être un filage, une répétition. Voilà, il y a des choses qui vont être plus abouties que d'autres et puis c'est assez chouette comme ça.
Chaque semaine, vous accueillez un artiste, un groupe de musique ou une compagnie afin qu'il puisse travailler à nouveau son spectacle. Comment les avez-vous choisis ?
Alors, on les a choisis. En fait, on a proposé de façon prioritaire aux artistes qui ont vu leur représentation annulée pendant la crise du Covid, donc depuis mars. Et puis, ensuite, on a proposé aux compagnies proches du TNT. Enfin, voilà, c'était assez ouvert. En fait, on a eu des réponses aussi de pas mal de monde. Et voilà.
Est-ce que vous pouvez nous présenter les artistes qui sont invités à jouer lors de ces vendredis inattendus ?
Alors oui, tout à fait. On a commencé vendredi dernier, le 5 juin, avec le Théâtre des Sept Lieux. Donc un duo clownesque qui parle d'Alzheimer et d'un voyage formidable sur la Lune entre un grand-père et son petit-fils. Vendredi qui arrive, on va présenter Residuos Ardientes. Alors, je suis désolée pour l'accent. c'est de la danse contemporaine. Elle est actuellement en train de répéter d'ailleurs sur le plateau. Et voilà, donc là, c'est un solo, une jeune danseuse qui vient travailler sur son solo. Vendredi 19 juin, on a Les Fabuleuses Histoires du Fabularium. C'est du théâtre jeune public. C'est une reprise d'une pièce qui a déjà été créée et les comédiens changent. Donc, du coup, voilà, c'est aussi l'occasion de s'entraîner et d'apprendre le texte. On a ensuite un spectacle qui s'appelle On est de son enfance comme on est de son pays. C'est du théâtre jeune public. C'est la compagnie résidente de cette année au TNT, donc la compagnie Slamino, qui a fait du très jeune public, même c'est à partir de quelques mois. C'est un spectacle qui parle de la rencontre avec l'autre, de l'ailleurs. C'est un spectacle sans parole et qui s'adresse en fait vraiment aux plus petits, mais aussi aux plus grands, et qui parle de... Oui, c'est ça, de traverser et de rencontrer l'altérité. On a ensuite... Le vendredi 3 juillet, Miel, donc la pièce qui a notamment été écrite pendant le confinement. Donc je n'ai pas encore trop d'infos dessus parce qu'elle est toute nouvelle. C'est un duo historico-burlesque. On a le vendredi suivant, toujours à 18h, le 10 juillet, le Tintamarre des comptoirs. Donc un spectacle également jeune public qui est un spectacle qui a déjà tourné un petit peu, mais donc il continue à travailler dessus. C'est un concert pour les tout petits. C'est un concert très poétique avec trois musiciens sur scène, plein d'instruments. C'est vraiment et visuellement c'est assez magnifique. Ça nous emmène dans un autre univers complètement. Le vendredi 17 juillet. Un spectacle d'improvisation, alors je n'ai pas encore le titre, mais voilà, c'est des créations, donc c'est de l'improvisation humoristique, c'est une création, et là du coup, voilà, c'est de s'entraîner aussi, et puis de trouver un peu le concept fondateur de ce projet, donc c'est le moment idéal. Et le dernier, le vendredi 24 juillet, ce sera La guerre des émeutes, donc avec deux jeunes comédiens nantais qui reprennent cette pièce.
Le TNT a mené tout au long de l'année plusieurs actions sociales et culturelles auprès des jeunes, pour favoriser l'égalité dans l'accès à la culture. Sur les 8 collectifs que vous allez accueillir en juin et en juillet, 3 sont destinés particulièrement aux jeunes publics. Est-ce que ce choix s'inscrit dans cette dynamique ?
Alors, Tout à fait, en fait, parce qu'on travaille notamment avec des groupes et des artistes qu'on connaît au TNT, donc aussi beaucoup de jeunes publics. Là, on a même deux spectacles qui sont très jeunes publics. Donc à partir de 3-4 mois, donc là on est vraiment pour des spectacles voilà, qui sont destinés aux tout petits et c'est quelque chose qu'on défend au TNT parce que je pense que les spectateurs de demain c'est les enfants d'aujourd'hui donc il faut qu'ils deviennent spectateurs.
Est-ce que vous diriez que ces actions sociales elles sont d'autant plus nécessaires avec la crise sociale et économique qui s'annonce ?
Oui et non. Je pense que c'est nécessaire tout le temps, en fait, de permettre à tous d'accéder à la culture et de favoriser un accès facile et simple à la culture. C'est important, quelles que soient les conditions politiques, sociales autour. Bien évidemment qu'en plus, dans des conditions particulières, c'est d'autant plus important. Mais je pense que ça l'est tout le temps.
Le vendredi à 18h, le public pourra venir assister à une étape de création du nouveau spectacle. Par exemple, à une répétition ou à un filage. Pourquoi ce choix d'inviter à être spectateur des coulisses de la création d'un spectacle ?
Eh bien, parce que déjà, on n'avait pas le temps de mettre en place une vraie programmation. Et voilà, et l'idée, c'était aussi de retrouver le public le plus vite possible. Les comédiens qui viennent sur le plateau, qui viennent travailler, avaient aussi cette envie de retrouver le public et de renouer un peu avec l'essence même de notre travail, c'est-à-dire d'accueillir du monde et de montrer des choses. Il y a aussi, je pense, quelque chose, pendant le confinement, on a été aussi dans des périodes assez particulières où finalement, de voir un peu le travail et de présenter des étapes de travail, de présenter des choses qui sont en cours, c'est aussi un moment un peu particulier parce qu'on n'est pas encore dans une vraie reprise. Enfin, bon, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que ma vie est entièrement reprise normalement son cours. Et du coup, de montrer des choses pas tout à fait finies et des ébauches, et peut-être que ça partira dans un autre sens, et ce n'est pas grave, c'est aussi l'époque qui veut ça. On est sur du sensible et on est sur de la création.
Quelles mesures le TNT a-t-il mis en place pour respecter la distanciation physique et les gestes barrières ?
Alors, on a mis en place deux protocoles, un pour l'équipe et un pour l'accueil des spectateurs. Alors, je vais plutôt vous parler du protocole pour l'ouverture au public. On a mis en place pas mal de choses. Donc, on a forcément du gel hydroalcoolique à disposition. Les masques sont obligatoires dans le théâtre, sauf pour les comédiens, enfin, sauf pour les artistes sur scène. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça aurait été un peu particulier sinon. On place le public de façon à respecter les distances, la distanciation sociale. Donc là, on n'est même pas sur un siège sur deux, on est un siège sur trois. Par contre, les gens peuvent venir à plusieurs et voilà, y réserver ensemble s'ils le souhaitent et être placés ensemble. C'est tout à fait possible. Et derrière, donc à la fin du spectacle, on demande aussi aux spectateurs d'attendre pour pouvoir sortir de façon à faire rang par rang pour éviter les croisements. Donc pas mal de choses. Et puis forcément, tout ce qui est nettoyage des locaux et voilà.
Et est-ce que c'est source d'appréhension ?
C'est quelque chose qu'on ne pensait pas mettre en place. Donc, après, non, parce que là, on a vraiment réfléchi sur tout ce qu'on pouvait mettre en place de façon à accueillir les gens en sécurité et faire attention à la santé de chacun. Normalement, il n'y a pas d'appréhension à avoir. On est sur des jauges très réduites. J'espère qu'il n'y a pas d'appréhension, ni pour nous, ni pour le public, en tout cas.
Comment le TNT prépare-t-il la prochaine saison ?
Eh bien, activement. Non, on est en train de la préparer dès maintenant. On y est même depuis un petit bout de temps. On va avoir beaucoup de reports, forcément. Et puis aussi beaucoup de nouveautés. Donc, une belle saison qui s'annonce dès la mi-septembre.
Nous rappelons que le TNT rouvrira ses portes au public tous les vendredis à 18h pour assister à la répétition d'un artiste, d'une compagnie ou d'un groupe de musique. Assister à cet instant de création est gratuit pour tous, mais vous pouvez soutenir le TNT et les artistes qui n'ont pas pu se produire sur scène en raison de l'épidémie en faisant un don à la billetterie solidaire du théâtre. Vous pourrez trouver celle-ci sur le site internet www.tntheatre.com. Merci beaucoup Louise Ratier d'avoir répondu à nos questions et belle journée à vous.
Merci.
Le Masquer la prune, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve lundi sans faute à 18h. D'ici là, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur le www.prune.net. Bon week-end à l'écoute de Prune.
Le masque et la prune. C'est une capsule sonore à retrouver sur Prune chaque jour à 18h. Tant qu'il y aura des masques.